Bonjour, Xavier Liébard, documentariste, présente Jeune Pousse, une série documentaire sur les jeunes du Tours Football Club. Xavier Liébard, l'invité de Dida. Qu'est-ce qui décide d'un sujet ?
C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui décide d'un sujet ? Concernant quand j'ai fait le film, en fait, Le Chemin des Brumes, j'étais en train de développer un projet, un projet de long métrage fiction et je cherchais un décor. Et mon frère Vincent a eu l'occasion de me montrer en fait les Monts d'Arrée comme étant un lieu de décor possible. Et pour ceux qui sont à Nantes ou même ailleurs en fait et qui connaissent les Monts d'Arrée, c'est un paysage exceptionnel qui est dur, qui est en hiver assez froid, un brin triste, mais je sais pas la tristesse. Je trouve qu'il y a une puissance de tempête dans ces paysages-là. Et quand je suis allé en haut du Mont Saint-Michel de Brasparts en fait, là, je suis tombé amoureux de ce paysage. Et il n'y a rien qui a décidé. Est-ce qu'on décide quand on tombe amoureux ? On ne décide pas. Et ce questionnement-là a suffi, en fait, pour me dire qu'il y avait un sujet possible. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est marrant, mais quand je me trouve là, en haut du Mont-Saint-Michel-de-Brasparts, et que je regarde ce paysage, j'ai l'impression qu'il y a un peu de moi. J'ai l'impression qu'il m'appartient un peu. J'ai l'impression que... comme s'il y avait quelque chose, un espèce d'archer intérieur, en fait, et que tout à coup, quelqu'un jouait sur cet archer-là, et puis ça résonnait. Voilà, ça résonnait. Et donc là, il y avait matière à film. Et après, nous, en tant que réalisateurs, on essaie de chercher la raison pour laquelle ça a résonné. Mais profondément, au départ, on ne la connaît pas. C'est pas forcément passionnant de faire un film autour d'un paysage. C'est même difficile. Mais comme j'avais cette question intime de dire pourquoi j'aime ce paysage, comment se fait-il que ce paysage-là me marque autant ? Je suis allé rencontrer des gens et j'aurais demandé, mais pourquoi est-ce que ce paysage vous marque ? Et j'ai voulu rencontrer des gens qui étaient, pas forcément qui étaient nés, mais qui, comment dire, avaient décidé de vivre là. Et tout à coup, c'est tout en fait une réflexion qui vient autour de dire, est-ce qu'un paysage nous appartient ? Est-ce que c'est parce qu'on est né dans un paysage que tout à coup il nous appartient ? Est-ce qu'on peut aimer profondément et viscéralement un paysage et qu'il nous appartient uniquement parce qu'on l'aime ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment de propriété, d'attachement qui dit tout à coup il est à moi ? Et finalement, la déduction que j'ai faite sur ce questionnement de départ, c'était de dire que le paysage n'appartient à personne. Puisque de toute façon, on ne reste pas longtemps sur cette planète, donc il appartiendra à d'autres. Le paysage est donné, en fait, on en fait ce qu'on veut, mais il y a quelque chose qui nous parle profondément de nous-mêmes dans un paysage. Voilà. Donc là, par exemple, c'était le questionnement sur le chemin des brumes. Un départ, une petite question, une sensation même. Et voilà, et je peux dire qu'à chaque sujet, j'ai eu à chaque fois un déclenchement intime très fort et la conviction qu'il y avait quelque chose à dire et à raconter autour de ça. Mais c'est pas simple de raconter une histoire documentaire, c'est difficile.
Un sujet possible, et qu'est-ce qui le rend possible ? Parce qu'après, il faut convaincre, on n'est pas seul.
Ah ben non, on n'est pas tout seul quand on fait des documentaires. Ça, c'est... Évidemment, on n'est pas tout seul. Il faut chercher des financements. Il faut écrire un dossier la plupart du temps. Il faut
séduire.
Il faut séduire, comme je suis en train de le faire là. Je ne sais pas si je cherche à séduire. Il faut essayer d'être convaincu par son aventure et savoir aussi que l'aventure qui va nous transporter pendant un an ou deux ans, si on n'a pas envie profondément de cette aventure-là, c'est même pas la peine d'y aller en fait, parce qu'il y a tellement de d'exigences, de bâtons dans les roues, de difficultés, en fait, qu'il faut être très accroché au sujet. C'est pour ça que je parle de convictions intimes, parce que j'ai, par expérience, appris que les convictions intimes étaient beaucoup plus fortes que les choses rationnelles, en fait. Et que quand on a une sensation de dire « j'aime ça »,
elles bousculent les Monts
d'Arrée. Elles bousculent profondément, elles investissent. Et là, en fait, pour Jeune Pousse, par exemple, ça a été très très vite, ça s'est construit de façon complètement différente. Un producteur est venu me voir en disant « Xavier, j'aimerais bien que tu fasses... » Mon fils est dans une équipe, en fait, au Tours Football Club. « J'aimerais bien, en fait, que tu fasses un film sur le Tours Football Club. » Et moi, je dis « Non, non, je ne suis pas fait pour faire un film sur les jeunes footballeurs. Je n'aime pas trop le football. J'aime pas trop l'environnement de foot. Je trouve ça assez agressif. Il y a une violence. Je trouve qu'en plus, on fait croire aux jeunes des choses qui n'existent pas. En fait, on leur fait croire que souvent, ils vont devenir demain des grands joueurs, alors qu'il y en a très, très peu d'entre eux qui réussissent. » Et puis j'y suis allé, pas contraint et forcé, mais avec cette espèce de résistance, de dire c'est un milieu dans lequel je ne suis pas attendu, c'est un milieu qui m'est hostile, dans lequel je suis absolument étranger, et ça c'est un pari que je suis prêt à faire. C'est-à-dire aller filmer pour une fois un lieu dans lequel je n'avais pas en fait a priori de sentiment avec. Et puis finalement, ce qu'il a emporté, c'est les jeunes de 13 ans qui sont des gamins magnifiques avec leur aventure de football, qui croient profondément à leur passion. Et puis après, ça n'a plus rien à voir avec le foot, c'est des histoires humaines. Voilà, j'aime le foot parce que mon papa m'aide. Voilà, mais le premier déclenchement sur Jeune Pousse, l'idée de départ, c'était de dire « je n'ai pas envie d'y aller ». Et c'était très curieux parce que j'ai essayé d'écouter ça en disant « mais qu'est-ce qui, à l'intérieur de ça, te fait peur en fait dans le fait de filmer le football ?» Et je crois que le fond du fond, c'était qu'on fasse croire à ces jeunes en fait que potentiellement ils pouvaient en faire une carrière. Et ils y croyaient tellement fort, ils y croient tellement fort ces jeunes-là, que je me suis dit « pourquoi pas, après tout, pourquoi pas les accompagner dans cette passion de 22 matchs par an, 4 tournois, de détection, enfin des choses extrêmement lourdes comme ça pour une famille. » Et j'ai compris, après 11 mois de tournage, qu'est-ce que c'était tout à coup que le football qui apparaît dans une famille. C'est une chose énorme, vraiment énorme. C'est, comment dire, souvent la possibilité d'échanger entre le papa et le fils. Souvent, c'est la maman qui dit « j'en ai marre des chaussettes » parce que des chaussettes sales, des maillots sales, de tous les week-ends pris, c'est compliqué. Mais c'est quand le foot débarque dans une famille, toute la famille est obligée de s'engager dans le football, en fait. Et les jeunes que je filmais, en fait, étaient en sport-études, pour la plupart d'entre eux, et étaient extrêmement investis dans leur passion, au point qu'ils en faisaient entre 10 et 15 heures par semaine, à peu près. Donc là, c'est vraiment le prototype de la passion qui arrive, c'est-à-dire cette idée que ça doit prendre tout l'espace, tous les loisirs, tout le temps. Et puis au fur et à mesure que je suis rentré dans les familles, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui pouvait construire en fait ces jeunes, parce qu'il y a une aventure humaine qui est exceptionnelle, il y a une aventure de groupe qui est fabuleuse. Il y a une aventure multiculturelle parce qu'ils ne sont pas des mêmes couches sociales, ils ne sont pas des mêmes cultures, ils ne sont pas même d'origine. Il y a beaucoup d'enfants de classes défavorisées en fait, qui sont dans ces clubs. Pas tous, mais déjà il y a une mixité sociale qui est très forte, une mixité culturelle. Et qu'à l'intérieur de ce groupe-là, de jeunes, ils vivent une aventure de rencontre, de se confronter à cette idée. On a un objectif ensemble, c'est de venir dans les 14 ans fédéraux, c'est d'être le premier de notre championnat. Et ça, on l'a ensemble. On ne sait pas pourquoi on vit cette aventure-là, mais ce qui est sûr, c'est que les règles du jeu, c'est taper dans le ballon et c'est tenir à tout prix. Et on va s'épauler. Alors donc, on passe par les engueulades, on passe par les difficultés avec les papas, on passe. Et là, ça devient une trajectoire qui est magnifique, parce que justement, rien n'est prévu de tout ça, de cette rencontre. Et finalement, alors que mon point de départ, c'était peut-être une aversion pour le football. Aversion, c'est un peu fort parce qu'en 98, j'avais vraiment suivi la Coupe du Monde avec un délice. Je trouve qu'il y a un suspense dans le foot qui est fabuleux. Mais là, je pense que les gamins m'ont absolument complètement fait découvrir le football, la passion que ça pouvait être, et je l'ai comprise. Je l'ai comprise. Je la trouve difficile, je la trouve très élitiste parce qu'en fait, il y a toujours un principe de sélection. Mais partager en fait pendant 11 mois la passion de 13 gamins par rapport au football, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique.
Alors j'entends deux choses. La première, c'est qu'au fond, pour peu qu'il y ait des arguments, soit qu'on vous les apporte, soit que vous les trouviez, tout sujet peut faire objet d'un documentaire.
Absolument. Oui, tous les sujets.
Y compris ceux qui sont distants de votre propre culture.
Ouais.
Et la deuxième, c'est que finalement, par strat, c'est un passionné avec son équipe de passionnés pour tourner qui rencontre une autre équipe de passionnés qui font du sport.
Moi, je suis passionné de la rencontre, de toute façon. Il y a cette idée d'aller...
Donc il y a des ponts, déjà, oui. dans l'humanité de la rencontre.
Oui, parce que tout à coup, en fait, peut-être documentariste, c'est un des rares métiers, en fait, avec journaliste ou avec... où on a la possibilité de partager des temps de vie avec les gens. Tout à coup, c'est tout à fait légitime de prendre un repas avec une famille, uniquement parce qu'on fait un sujet sur eux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout à coup, on dit, ben voilà, on veut faire un sujet sur le football, et puis on se retrouve très concrètement à prendre le couscous avec Mehdi, avec sa maman, et puis à se rendre compte qu'on est voilà, dans une famille algérienne traditionnelle, et puis que le couscous, ça se prend d'une telle manière, et qu'il y a la prière auparavant, et... et que tout à coup on est en pleine immersion dans les familles et que cette rencontre-là n'a pas été programmée à aucun moment. Et puis le lendemain, on se trouve avec une famille zaïroise qui va manger de façon différente, qui fera la prière mais chrétienne cette fois-ci. Et là encore, autre rencontre, autre immersion, autre question. Et que tout à coup, cette légitimité de pouvoir faire un film et de rencontrer les gens et de partager du temps avec eux, c'est magnifique. Enfin, moi, je crois que c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est parce que tout à coup, un film me donne la possibilité d'aller jusqu'au bout de ma curiosité et de voir comment ça se passe à l'intérieur.
Quand vous dites je les rencontre, vous les rencontrez avec ou sans caméra ? C'est-à-dire que vous filmez tout, vous choisissez les moments, vous posez cette question de l'intime. Je suppose qu'il y a sans doute des choses qu'ils ont envie de vous livrer, mais pas forcément qu'elles soient filmées. Puis vous, ça vous intéresse en disant ouais. Moi je vais absolument filmer ça.
Moi je pense que il y a une tendance dans mon métier qui est une tendance à une forme de pas de voyeurisme, mais de voir comment ça se passe en fait. Et ça, il faut quand même résister à ça parce qu'il s'agit pas d'aller extorquer des informations. Et c'est justement pour ça que on prend le risque de vivre avec les gens sur un temps assez long. Parce que tout à coup, quelque chose s'installe qui est dedans de la confiance, où moi, je sais exactement les choses que je peux dire et les choses que je ne dois pas dire. Les choses qui peuvent être... qui bousculent et les choses qui bousculent trop. Et je pense que si ce temps d'immersion est important, c'est justement parce qu'il faut que la personne s'habitue à la présence d'une caméra, il faut qu'elle s'habitue à moi. Et puis, il faut savoir un petit peu ce qui est possible et comment cette rencontre peut être faite ensemble. Comme dans cette rencontre-là, actuellement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qu'on
ne doit pas dire. Ça m'intéresse, de faire dire les choses qu'on ne doit pas dire.
Bah oui,
à titre d'exemple.
Ici, dans une radio, par exemple, il ne faut pas dire qu'on est devant des gros micros. Hein, je suis devant un micro noir, vous êtes devant un micro jaune. Il y a une lumière rouge qui est allumée. Il y a un petit monsieur qui est à côté qui fait la grimace. Et c'est le fonctionnement de la radio. Ça, on ne doit pas dire comment ça fonctionne. Et dans le fonctionnement du documentaire, on ne doit pas tout dire, en fait. Il y a des principes de ne pas regarder la caméra, de faire en sorte que ce ne soit pas une adresse directe. Donc, ce qui est en jeu, c'est un rapport, en fait, entre moi et la personne. Et là, ce qui est très compliqué, en fait, c'est que du coup, le rapport que je vais créer sera beaucoup plus fort dans le cas de Jeune Pousse avec les enfants qu'avec les adultes. Donc j'ai dû faire comprendre aux papas et aux mamans que le sujet des films, c'était les enfants, les adolescents, c'était pas eux. Et ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué quand, par exemple, on rencontre Ryan, qui était un jeune footballeur, et qui me dit à moi, « Bon, moi, j'aime bien le football, ça me plaît beaucoup, mais je crois que mon papa l'aime davantage que moi. Et que si, en fait, je ne suis pas pris dans l'équipe 1, qui est l'équipe dans laquelle on choisit les meilleurs, eh bien, pour mon papa, c'est beaucoup plus douloureux que moi. Moi, je m'en fous un petit peu, mais mon papa, il s'en fout pas. » Et la preuve, c'est qu'il fait une pression très, très forte sur l'entraîneur. Alors, comment ça se passe quand on a ce type d'information-là ? D'abord, on l'entend une première fois, et on filme pas la première fois. Et puis ensuite, on va essayer de faire en sorte que tout à coup, ça soit dit, si c'est possible. S'ils sont prêts à le dire, s'ils ont envie de le dire. Parce qu'il y a un moment où tout à coup, la caméra arrive comme un révélateur. Et puis, il y a un moment où j'ai décidé de faire cette rencontre-là, qui était pour moi une rencontre importante dans l'histoire du documentaire, entre Shérif et Ryan, ensemble, le papa et le fils. Et donc, je pose la question à Ryan de dire, est-ce que toi, le football, tu pourrais faire autre chose dans ta vie ? Et puis Ryan dit tout de suite en fait que lui, le football, c'est pas une chose essentielle. Et on sentait que le papa faisait un peu la grimace en fait. Et puis plus l'interview avançait, plus Ryan était mal à l'aise pour dire à quel point finalement l'attention que le papa lui mettait en fait n'était pas forcément justifiée. Et en parlant en fait, je me suis rendu compte que ils étaient pas à l'aise ni l'un ni l'autre. Donc j'ai proposé en fait. À Ryan de faire l'interview dans sa chambre à part. Ce qui demande une confiance de la part du papa, en fait. C'est pas évident. Et puis Ryan a commencé à dire que pour son papa, c'était difficile. Et que c'était difficile dans la relation avec son père, parce que son père lui mettait une pression énorme pour qu'il réussisse dans le football. Et que cette pression-là, il la supportait mal. Il me le disait plus facilement à moi qu'à son papa. Là, c'était difficile, parce qu'on est dans l'ordre de la confidence. Comment, moi, je me positionne par rapport à ça, à la parole du fils ? Alors l'interview s'est plutôt bien passée, la parole de Ryan était plus libre, mais au moment où je suis descendu dans la cuisine, Shérif est venu me voir, et j'en parle sans aucun problème parce qu'on en a parlé par la suite, et il m'a dit « faut que je te dise quelque chose Xavier, je suis embêté, j'ai écouté aux portes ». Parce que que t'interviews mon fils comme ça et qu'il parle de moi et ça me gêne. Et j'écoutais, mais je lui dis, t'es pas un gamin, tu veux pas que je t'engueule. Enfin, c'est pas. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il dit, ouais, mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe, je lui mets pas la pression. Et puis d'ailleurs, la pression, elle est absolument partout. Je dis, ben, je prends la caméra et si tu veux bien, ton droit de réponse, je le filme. Et tout à coup, la caméra était là comme un lieu de dialogue possible, par caméra interposée entre fils et père, sans qu'à aucun moment ça soit un règlement de compte, parce que j'ai pas du tout envie de ça. Mais que cette parole soit possible. Et finalement, Chérif est arrivé à dire, mais moi, vous savez, c'est difficile d'être papa, c'est difficile de transmettre sa passion. Et j'aurais voulu réussir dans le football. Oui, j'aurais voulu réussir. Mais surtout, j'aurais que mon fils soit bien mieux que moi. Et c'est pour ça que je lui mets une pression importante. Et c'est pour ça que c'est important qu'il réussisse dans le football comme ailleurs. C'est que si Ryan pouvait être mieux que ce que je suis au jour d'aujourd'hui, eh ben, du coup, j'aurais réussi à être un bon papa, quoi. Et il m'a semblé que j'ai eu là, en fait, quelque chose que je cherchais, moi. C'est que c'est difficile d'être papa. Et que tout à coup, quand on a avec soi un jeune footballeur, eh ben, on a envie qu'il marque des buts, on a envie qu'il marche, on a envie qu'il... Et c'est un peu la tête et les jambes. C'est du coup, le papa est sur le côté du terrain pour... Et je pense qu'il y a des papas qui vont sourire parce qu'ils connaissent ça, à encourager le fiston et puis à dire, vas-y, tu vas réussir, vas-y, marque ton but. Et puis, il y a le fiston, ben, c'est un peu les jambes, quoi. Donc, la tête et les jambes. Et je commençais à comprendre l'agressivité, parce que c'est les réels, cette agressivité, des adultes sur les bords de terrain quand c'est des jeunes qui jouent. Parce qu'on est dans le registre de la passion et que le papa qui est là, forcément, il a envie que son fils s'en gagne. Et c'est quelque chose, c'est une mécanique qui est très, très, c'est assez complexe dans le domaine du sport, en fait. Je ne connaissais pas ça du tout. Et comment dire, là, je comprends quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. Qu'est-ce que j'apporte à mon fils? Qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que je ne veux absolument pas lui donner? Qu'est-ce que j'ai peur de lui transmettre? Et finalement, il n'est pas tellement question de football dans cette histoire. Il est question d'amour. Enfin voilà, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je livre, qu'est-ce que je transmets. Et que le football n'est jamais qu'un prétexte pour cette transmission-là. Au-delà de ça, je pense que c'est intéressant pour des jeunes footballeurs et des jeunes sportifs et des parents de jeunes sportifs de comprendre un petit peu le mécanisme à l'intérieur des familles de ce qui se passe quand on fait un sport intensif. Parce que c'est drôle, c'est émouvant. Cette aventure-là est émouvante. J'espère que le film est drôle et émouvant aussi. Mais familialement, c'est quand même un électrochoc de faire du sport intensif.
Xavier Liébard, merci.